שרזה מי השם עליכם תחיו לאורך ימים טובים ושנים נעימים. Nous sommes le 8 Tevet, et donc comme nous l'avons dit précédemment, le 8 Tevet c'est le jour où la conclusion de la traduction des 70, de la traduction grecque de la Torah a été finalisée. Cette traduction a été demandée par Ptolémée, le roi d'Alexandrie. Et Chacham nous dit à ce sujet que c'est considéré comme étant quelque chose de tout à fait négatif. 3 jours d'obscurité ont enveloppé le monde au moment de cette traduction. Le 9 est le jour du décès, de la disparition de Ezra Sofer. Comme nous l'avons dit, il est décédé en 3448. Et cette même année ont disparu les trois derniers prophètes, Haggai, Zecharia, Omlachi. Ça signifie que la prophétie a duré 1000 ans et s'est interrompue définitivement jusqu'au retour de la prophétie par la venue du Mashiach. Et à présent, il s'agit de tendre l'oreille et d'écouter la parole des sages, comme nous dit la Braïta dans Sederola. Akan divrei nevi'im, mikan, at ozen keafar keset, tend l'oreille comme un entonnoir, ushma divrei chachamim, et entend, écoute les paroles des chachamim. La shmi'a, le fait d'entendre, ne c'est pas juste entendre. C'est d'approfondir, d'adhérer, de comprendre profondément le sens des paroles des sages. Alors nous avons déjà, dans un cours précédent, expliqué la nouvelle dimension que doit prendre la Torah au moment de la disparition de la prophétie. Ce qui va être manifesté, la traduction, donc nous sommes, Ezra disparaît en 3448, mais la traduction de la grec de la Torah va se produire en 3515. Donc, beaucoup plus tard. 3515, c'est environ 70 ans avant que les Séleucides ne fassent leur xérot sur Am Israël. Donc, c'est le début de 70 ans environ avant que les Séleucides prennent le pouvoir en Eretz Israël. Et qu'ils imposent la profanation du temple. Donc revenons à Ezra. Ezra emporte avec lui le concept de la prophétie. Ezra, c'est lui qui a initié le retour des exilés, la reconstruction du temple, la construction des murailles. Et il a initié plusieurs xérotes. Il a fait beaucoup de changements dans la pratique. Entre autres, la Gemara nous dit dans Sanhedrin qu'il y a deux choses qu'il a fait très importantes, qui sont le changement de l'écriture et l'adoption des nouveaux mois, les noms des mois. Donc, dans la Torah, il n'y a pas de nom au mois. Il y a Chodesh Harishon, Chodesh HaShevi'i, donc les mois sont mentionnés, le mois de Nissan est mentionné comme étant le premier des mois, etc. Donc il n'y a pas de nom au mois. Et les noms que nous possédons, Nissan, Iyar, Sivan, etc., sont des mois qui ont été emportés, amenés avec les exilés quand ils reviennent d'Assyrie. Le ktav que nous possédons, le ktav carré, est appelé le ktav ashuri. La Gemara donne deux raisons à ce nom. Ashur, sheviu itam mi ashur. Ils l'ont ramené avec eux quand ils sont revenus de Ashur, la Syrie. L'apostrophe Assyrie. Donc c'est un ktav babylonien. Ou apparenté à babylonien. Ainsi que les noms. La deuxième raison, c'est Ashur, Milachor, Niachor. c'est un octave droit, un octave de valeur qui correspond, qui traduit parfaitement le sens de la Torah. Alors il y a une question qui se pose, alors quel était l'octave qui était antérieur à cela? Alors c'est l'octave ivri. L'octave ivri ressemble à un octave qui est comme celui, l'ancien phénicien, à peu près. Donc la question qui se pose, c'est que Ezra va changer l'octave, va changer l'écriture, et va imposer, il va sanctifier l'octave carré. Et l'autre écriture va être totalement abandonnée. La question se pose que comment le Sefer Torah a été écrit jusqu'alors. Alors, les Farshim s'interrogent à ce sujet et répondent de la manière suivante. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il écrit la Torah, il écrit en octave ivri. Il écrit le jour de sa mort 12 Sefer Torah qu'il donne à chacune des tribus, qu'il attribue à chacune des tribus. Ces livres, ces Sefer Torah sont écrits en octave ivri. Donc en vieux phénicien, disons, en octave ancien. Mais les Luchot, alors quand on compare, la Gemara a dit que même Vesamer Sheba Luchot, Benes Ayu Amdim. Donc le même et le Samer, c'était gravé de part en part dans les tables. Donc le même est carré. Donc on l'ouverture, donc les lettres sont gravées. C'est-à-dire qu'il y a des ouvertures. Alors, l'intérieur est plein. Alors, comment... c'est ça la particularité du même et du summer. Donc, alors, comment ça tient, l'intérieur tient? Alors, Benes, c'était l'Agmara, a dit Benes, ayant on dit. Donc, il est certain que les Luchot étaient écrites en octave achouri. Parce que quand on observe l'octave ivri, qu'on a retrouvé, qui existe, alors on voit que le même et le samer ne sont pas du tout de cette manière, écrites de cette manière-là. Donc il y a une différence entre l'octave ivri et l'octave l'octave du Sefer Torah que Moshe écrit, et l'octave des Luchot. L'octave, nous dit le Maharal et d'autres Mefarshim, que les Luchot étaient écrites en octave achouri. Mais Moshe Rabbeinu n'écrit pas seulement 12 Sefer Torah, il écrit un 13e. Et ce 13e Sefer Torah est posé à côté des Luchot dans l'arche, dans le Aaron HaKodesh. Et celui-ci, il est écrit en octave achouri. Donc il y a deux écritures. Donc l'usage habituel était d'utiliser l'écriture ivri, l'octave ivri. Et c'est comme ça que les gens utilisaient jusqu'à Ezra. Mais à partir de Ezra, Ezra a repoussé, enlevé, fait disparaître l'octave ivri pour qu'on adopte de manière définitive et complète l'octave qui était sur le Luchot. Alors à ce sujet, il est dit qu'il y a 600 000 lettres, Yesh Shishim Ribo Otiot, la Torah. C'est l'expression qui est employée par les Chazal. Il y a 600 000 lettres pour la Torah, ou dans la Torah. Alors quand on compte le Sefer Torah, on voit qu'on est loin de 600 000, il y a 4 850 lettres, à peu près. Donc, où sont passées les autres lettres? Donc, ça ne correspond pas. Alors le Rambam Ippano indique que, il ramène des preuves, que dans les Luchot, il y avait... Toute la Torah écrite, toute la Torah orale, toutes les Shmuot, tous les enseignements étaient entre les Dibrot, étaient gravés entre les Dibrot. Et comme dans les premières tables. Et quand Moshe Rabbeinu casse les tables, lâche les tables, elles se brisent, les lettres, otiot polchot ba'avir, les lettres s'envolent. Mais pas toutes, il y a des lettres qui sont tombées. Et Moshe Rabbeinu va ramasser ce qu'il peut ramasser des lettres pour récupérer ces lettres et en écrire le Sefer Torah. Donc quand nous disons qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, il s'agit des Luchot. Mais Moshe Rabbeinu ne va pas prendre toutes les lettres de la Torah pour écrire le Sefer Torah, il va en prendre une partie. Et ce Sefer Torah-là va être écrit, alors les lettres qui étaient dans les Luchot, était un octave achouri, comme nous l'avons indiqué, Et Moshe Rabbeinu va écrire, donc sanctifier le Sefer Torah national, pas des tribus, avec ces lettres-là. De telle sorte que c'est seulement à partir de cette transformation que Ezra va procéder, qu'on va pouvoir changer et interpréter l'écriture. Donc, c'est-à-dire que ce qui a précédé, la démarche qui prévalait avant le changement de Ktav, indique que l'essentiel de la Torah était lu et entendu. On remarque ça dans la lecture que le roi faisait la septième année dans le temple, à l'année qui suit la Shmita. Et à plusieurs reprises, il est marqué qu'on lisait la Torah. Donc quand on lit la Torah, on entend. Donc celui qui entend, le peuple entend, est imprégné de l'enseignement. Donc il s'agissait d'une autre dimension, une dimension prophétique. Donc puisque à la disparition de Ezra indique la disparition, la fin de la prophétie. Donc jusqu'alors, il suffisait d'entendre la lecture de la Torah pour être imprégné de la lumière contenue dans le sens, saisir le sens profond. Donc c'est comme si un prophète parle et on est imprégné du message divin. C'est de la même nature, de la même dimension que, comme il est dit, ils ont entendu les deux premières dibrotes au moment de Mahamar Dar Sinai, ils les ont entendues de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, mais Pia Gevura Shem Ma'anum, de la bouche de la puissance, nous les avons entendues. Et après, ils ont demandé à Moshe Daber Ata Imanu, c'est à toi maintenant, à présent, de parler. Et donc, quand Moshe parle et transmet l'enseignement, les Bnei Israël perçoivent, ils sont imprégnés de cette puissance prophétique. Donc c'est la parole, comme il est dit, que Akadosh Baruch Hu, la Shekhina, parlait mitor grono. Donc quand Moshe parle, on entend la voix du Seigneur, d'Akadosh Baruch Hu. Donc on est imprégné, c'est ça le sens de la prophétie. Quand la prophétie cesse, cette dimension disparaît. Et c'est ça le sens que nous avons donné à la traduction grecque, ce qui s'est passé lors de la traduction de la Torah en grec à l'époque de Ptolémée. Donc on a perdu cette dimension-là. Les lettres, nous dit le Ramchal, donc les lettres Ktav Ashuri, étaient aussi adoptées par les Assyriens. Donc nous, Ezra l'a récupérée et l'a sanctifiée de manière définitive en abandonnant l'autre écriture. C'est-à-dire qu'à partir de Ezra, et il est dit au sujet de Ezra, Raoui, Ezra, Shetinaten Torah Aliado. Donc Ezra était à un niveau spirituel tel qu'il convenait que la Torah soit donnée par Ezra. C'est-à-dire que certainement Ezra n'est pas de la même dimension que Moshe, sans aucune comparaison, mais que par rapport à son époque, et la nouvelle période qui s'ouvre, il était de la dimension de transmettre la Torah au niveau du peuple, la nouvelle dimension de la Torah. Et cette nouvelle dimension de la Torah, c'est celle que nous possédons. C'est-à-dire que les lettres qu'on a choisies, Ktav Ashuri, contiennent la lumière. Or, il est dit dans le Svarim, Akadoshim, que Akadosh Baruch Hu a créé le monde par la parole. Les Mfarshim se essayent d'expliquer en quoi le Lachon HaKodesh, ce Lachon-là, est saint. Pourquoi on appelle ça Lachon HaKodesh? Alors, les Mkubanim expliquent que, et c'est mentionné dans Sefer Yetzirah, que c'est par la parole et les 22 lettres de l'alphabet du Ktav Ashuri, celui que va imposer Ezra, que HaKadosh Baruch Hu a créé le monde. Et c'est ça le sens, que c'est ces lettres-là qui étaient gravées dans les tables. Alors, chaque lettre, le Aleph, si nous prenons le Aleph, il est formé de pointes, de ronds, d'arrondis, de traits, toutes sortes la lettre, elle est formée de plusieurs éléments. Et nous disent les Mkoubalim que la lettre, chaque élément qui compose la lettre est un élément spirituel qui se conjugue aux autres. Et la lettre, donc, est comme elle ressemblerait à une éprouvette dans laquelle on met plusieurs éléments pour former quelque chose de nouveau. Donc, quand la lettre est composée, donc chaque lettre a un sens et contient des énergies, quand on compose les lettres entre elles, donc on forme des mots, des phrases, donc cette composition-là, et en fait, contient des énergies. Alors, si on veut créer, quand il veut créer la lumière, alors il emploie un mot qui contient véritablement la lumière, qui est particulière pour créer la lumière. Quand il s'agit de créer l'eau, il en va de même. Donc chaque lettre contient en fait les énergies qui vont permettre de créer l'élément en question. Et comment cela est traduit? Alors si nous prenons le Aleph, alors le Aleph indique l'unicité, le 1, la valeur numérique, c'est le sens de la valeur numérique. Il est le Aleph, le 1. Il se décompose en plusieurs lettres. Donc le Vav qui est un peu en oblique. Ce Vav-là est interprété d'une certaine manière. Il ressemble à un firmament au ciel, un rakia. Et le Yud au-dessus, le Yud en dessous. Parfois, on attribue à la partie supérieure un Yud. La partie supérieure du Aleph, on lui attribue un Yud, ainsi que la partie inférieure. Mais parfois, on attribue à la partie inférieure un Dalet. Donc la valeur numérique, à ce moment-là, de la décomposition du Aleph, elle varie entre 26, Yod, Yod et Vav, ça fait 26, et parfois ça varie, Yod, Vav, Dalet, ça fait 20. Donc il y a des nuances. Et selon le besoin de l'interprétation, on va utiliser ou l'un ou l'autre des valeurs numériques. Donc on voit que la lettre, elle se décompose. Le Aleph lui-même, il est écrit Aleph, tel quel, mais quand on prononce le Aleph, il change. Alors Aleph, on va lui mettre Aleph, la mettre P. Donc on le décompose. Il se développe. Ça, c'est cette notion-là. Donc il y a le sens du Aleph, la valeur numérique du développement, ça vaut 111, on remarque 111, c'est le sens, ça vaut 1 en vérité, il y a des 1 partout, des Aleph partout dans le chiffre. Donc cette valeur-là de la lettre, c'est ce que le Ramchal dit, que quand on souffle sur la lettre est une braise. Or mamash, nous dit le Ramchal, et que quand on souffle dessus, alors la flamme jaillit, et la flamme a plusieurs couleurs. Et les différentes couleurs de la flamme sont les différentes manières d'interpréter la Torah. Donc cette notion-là, elle a été initiée par Ezra. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la prophétie a été retirée au monde, donc il y a un besoin de rechercher, de donner un sens au texte. Donc le texte de la Torah n'est plus accessible par l'écoute, uniquement l'écoute. Il nécessite une interprétation, une analyse. Il nécessite de briser les écrans qui empêchent la lumière de jaillir. Ce que le Ramchal appelle « souffler sur la braise ». Donc cette démarche-là va permettre justement d'innover le chidouch. C'est à partir de là que va rentrer le concept de l'exégèse, de l'interprétation, du commentaire. Avant cela, il n'était pas nécessaire puisque la parole était limpide, claire, le message était évident. transparent, limpide, d'une limpidité, d'une clarté totale. La traduction grecque de la Torah va cacher la lumière, va l'envelopper dans des écrans qu'il nous revient de briser et d'ouvrir. Donc c'est que ça, nous avons déjà dit, ça ressemble à la coquille, aux coquilles qui entourent la noix, qu'il s'agit de briser, d'éliminer pour nous permettre d'atteindre la véritable lumière. C'est ça le sens que jusque-là, il y avait la prophétie qui a duré 1000 ans, et à partir de maintenant, tends l'oreille et écoute les paroles des sages. Écoute, ça veut dire schéma, ça veut dire adhère. Ça veut dire donc le Rav, il enseigne, il faut que moi j'adhère à ce qu'il enseigne. Mais pour que j'adhère à ce qu'il enseigne, il faut que je le comprenne. C'est pas juste une acceptation de tout. Il ne s'agit pas d'être naïf et de croire tout ce qu'on raconte. Il s'agit de véritablement comprendre le sens de l'enseignement. Et comment on le comprend? Quand nous-mêmes, le Rav, le bon Rav, c'est celui qui ne dit pas tout, qui donne les clés du savoir. Il permet à l'élève de s'épanouir. Donc il lui donne les clés de la compréhension. Il sait, afin que l'élève se trouve lui-même, parvient lui-même à trouver la solution aux questions qu'il se pose et à comprendre véritablement. Et donc, c'est-à-dire que l'élève va aller au-delà de ce que le maître dit. Le maître ne dit pas tout. Il laisse à l'élève une partie qui va lui permettre de s'épanouir, de trouver satisfaction et de trouver de parfaire l'enseignement du maître. Il va rajouter l'élève, le bon élève, c'est celui qui, le bon maître, c'est celui qui ne dit pas tout, et le bon élève, c'est celui qui arrive à ajouter et à développer l'enseignement de son maître. De telle sorte que c'est l'élève se retrouve dans le maître, et le maître se retrouve dans l'élève. C'est ça le mot schéma. Il y a une complémentarité entre ces la conjugaison du maître et de l'élève qui vont permettre à la Torah de se développer. Et c'est ça ce que Ezra a initié à travers le changement de l'alphabet. Cet alphabet-là, qui mérite véritablement, les lettres méritent une interprétation, comme la Gemara dans Shabbat, à la page 104, le dit. « Ikansu dardeke le beta midrash ». On fait rentrer les dardekés. Dardekés, ce sont les petits-enfants. Et les petits-enfants, on leur apprend l'alphabet en premier. Aleph, Bet, Gimel. Alors là, les enfants, ces enfants-là, entre guillemets, ont commencé à interpréter les lettres. Le Aleph. Aleph, Bina. Le Bet. Aleph, c'est-à-dire apprendre. Donc là aussi, c'est la forme du Aleph qui permet d'apprendre. Aleph, Bina. Le bête, c'est la bina, la compréhension. Donc le maître enseigne, et l'élève va comprendre, va avoir du discernement, et va rajouter sur ce que le maître a. Mevin davar, mitor davar. Il comprend, le maître a dit quelque chose, et l'élève va au-delà de ce que le maître a dit. Et c'est comme ça que les lettres vont être interprétées. Cette lumière-là était d'une exigence pour valoriser la Torah. Donc il ne s'agit pas de dire des banalités, de raconter des histoires. La Torah n'est pas le Zohar, s'élève contre ceux qui limitent la Torah à une histoire, qui la dénature, en rabaissant le niveau de la lumière. Il n'y a pas de lumière, des fois. On parle, des gens disent des, entre guillemets, des vrais Torah, mais rabaissent le niveau de manière très basse. Des banalités qui n'ont aucun intérêt. Et ça, c'est une pgia bechvod haTorah. Comme dit Rabbi Akiva, la Mishnah a dit, Mishemet Rabbi Akiva, batla kvod Torah. Quand Rabbi Akiva est décédé, alors le kavod de la Torah a cessé. Et Rachid expliquait que Rabbi Akiva interprétait chaque lettre, non seulement les lettres, mais aussi les pointes qu'il y a sur les lettres, les tagim, et les pointes, etc. Et il savait justifier chaque lettre. Pourquoi cette lettre-là est écrite de cette manière-là? Pourquoi ici il y a telle lettre et pas telle autre lettre, etc. Donc il n'y avait rien de superflu, rien ne manquait, rien, et rien n'était en trop dans la composition des mots de la Torah. Ça, ça donne de la valeur à la Torah. Donc le chidouche, ce qu'a innové, initié Ezra, c'est donner de la valeur à la Torah. La Torah, ce n'est pas une histoire, nous dit le Zohar. La Torah, c'est quelque chose de profond, l'enseignement divin. Et chaque fois que nous enseignons, ou nous lisons un texte, ou nous essayons d'expliquer un texte, il faut y chercher le message divin. Le message divin étant quelque chose de sublime, de noble, de extrêmement élevé, qui est au-delà de ce monde. Donc trouver une dimension spirituelle sublime, élevé, c'est ça qu'il faut chercher. Il faut chercher, c'est ce que nous appelons la lumière de la Torah. C'est ça le sens du changement des lettres. C'est pour cela que Ezra, Raoui Ezra, Shetinatena Torah Aliado, parce que c'est à partir de ce moment-là que où il a effectué le changement, que que la Torah a pris un nouveau sens, qu'elle va permettre à tout un chacun de découvrir le chidouche, d'innover dans son interprétation, d'ajouter sur le maître. Ça, c'est le sens profond qu'il convient à chacun de c'est ça notre devoir, notre mission, c'est de donner, de trouver dans la Torah cette dimension spirituelle et sublime et extraordinaire, la véritable lumière de la Torah. Yiratzon kekadosh baruch hu nous guide. Voilà, c'est ça, là, c'est de cette manière-là qu'on nous parvenons à nous sanctifier grâce à l'étude. Et trouver, quand nous faisons de la halakha, quand nous étudions le Talmud, il en va de même pour le Talmud, nous dit le Rama Mipano. Chaque mot du Talmud a un sens extrêmement profond. C'est pas juste des mots qui sont là, même le nom, les noms qui sont donnés aux Chachamim qui sont mentionnés dans le Talmud, les Tanaïm, les Amoraïm, ont un sens, ont une profondeur. Et il ne s'agit pas de lire les choses de manière superficielle. Parfois, dans la Gemara, on raconte des histoires qui semblent banales. On raconte des rêves, on raconte... Alors tout est à un niveau extrêmement superficiel. Quand on reste dans le superficiel, on reste dans l'écorce, dans l'histoire. Et ça, c'est pas la Torah. Ce qu'il y a, la Torah, c'est d'aller au-delà de cela. L'histoire n'est que le support qui va nous permettre de trouver la lumière, l'enseignement profond qu'il y a dans chacun des enseignements du Talmud. Que ce soit au niveau de la Halakha ou que ce soit au niveau de la Haggadah. Yiratzon kekadosh baruch hu, nous illumine. Nous aide à faire jaillir la lumière de la Torah, afin que la lumière de la Torah, ce sont des énergies extrêmement puissantes qui amènent la prospérité, la santé, qui amènent le bien-être. Ce sont les énergies de vie en ce monde, et que HaKadosh Baruch Hu nous comble du meilleur. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.